Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
On continue de parler politique. On va se transporter sur la politique internationale et à Taïwan. Et j'en parle avec Stéphanie Touga. Bonjour Stéphanie.
Salut Yasmine.
Alors Taïwan, rappelons qu'est-ce qui s'est passé. C'est une longue histoire qui où les deux derniers jours ont venu rajouter quelques éléments à cette longue histoire assez compliquée.
Exactement, une histoire assez tendue à Taïwan, en Chine, mais on rajoute là-dedans le géant américain. Il y a une relation compliquée entre la Chine et les États-Unis qui est tendue depuis des décennies, puis ça s'est accentué, puis il y a des moments où il y a une accalmie, puis il y a des moments où ça redevient un petit peu inquiétant quand on observe un peu les relations entre ces deux pays-là, entre ces deux géants-là, qui ont tous les deux l'arme nucléaire. Fait que c'est quand même un contexte compliqué. Donc, pour rappel, là, Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, a fait un voyage dans les derniers jours en Asie et elle a entretenu le flou à savoir si elle allait se rendre à Taïwan. Taïwan, qui est une province chinoise avec lesquelles tous les pays pas mal entretiennent des relations économiques, mais quand même, ça reste une province en Chine que la Chine aimerait bien un jour avoir, donc, dans une Chine unifiée. Le président Joe Biden et Xi Jinping s'étaient parlé au téléphone en juillet et le président chinois avait dit à Joe Biden, essentiellement, je veux pas te voir à Taïwan. Il l'a mis en garde en disant, si tu vas avec le feu, tu vas finir par te brûler et on va finir par enclencher des mesures pour vous sanctionner si jamais vous venez en Chine. Joe Biden se retourne vers Nancy Pelosi qui, elle, avait dit, j'ai peut-être l'intention de me rendre en Taïwan pour rappeler l'importance de la démocratie. Et malgré que le président américain lui aurait dit « n'y va pas », elle s'est quand même rendue, donc mardi et mercredi, à Taïwan, sachant très bien que ça attiserait la colère de la Chine, qui ne souhaite pas du tout voir les Américains débarquer et se positionner politiquement dans son pays. Donc, faut savoir que les États-Unis entretiennent des relations privilégiées avec Taïwan, mais quand même, là, ils ont toujours un peu entretenu le flou en disant « on applique la politique d'une Chine unique ». Donc, la Chine voit ça vraiment là, comme un acte de provocation clair, un acte de provocation frontale. Ça les positionne aussi dans une situation un peu de faiblesse sur le plan des relations internationales parce que les États-Unis, malgré que la Chine leur a dit « viens pas chez nous, viens pas à Taïwan », Nancy Pelosi a décidé non seulement de s'y rendre, mais de s'y rendre un peu en catimini sans trop annoncer ses couleurs.
Mais oui, c'est ça. Pourquoi ne pas avoir assumé dès le début qu'elle allait se présenter là? Tu sais, pourquoi cette séance de avance-recul? On nous dit pas nécessairement qu'elle va aller à Taïwan. Les doutes, on les a. C'est un peu particulier qu'ils ne veuillent pas assumer dès le début qu'ils sont à Taïwan.
Ça s'est demandé si même jusqu'à la dernière minute, Nancy Pelosi, elle s'est pas demandé jusqu'à lundi matin si elle allait s'y rendre ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Surtout qu'en parallèle, lundi, là, on dirait que ça fait des mois, mais on se rappelle que lundi, c'est Joe Biden nous a annoncé qu'il avait éliminé le chef taliban.
Mais oui.
Donc, c'est un peu incohérent tout ça. Là. Ça vient mettre du bruit autour d'une bonne nouvelle, je mets des guillemets, pour Joe Biden qui a réussi à mettre à mal le régime taliban. Puis parallèlement à ça, ben ce dont on parle depuis 4 jours, c'est que Nancy Pelosi est à Taïwan. Puis là, aujourd'hui, ça s'accentue parce que la Chine a commencé à tirer des missiles, à faire des exercices militaires jusqu'à dimanche, déployer des navires de guerre, des avions de chasse. Donc la Chine, tu sais, est en beau maudit et elle le laisse savoir là, contre Taïwan, pas contre les Américains, mais contre Taïwan. Donc, c'est vraiment une situation assez tendue. Stéphanie, comment tout le monde dans une situation de faiblesse.
Comment oui. le Canada, allié historique des États-Unis, doit se positionner dans cette relation tendue-là? On a-tu besoin, nous aussi, d'engager les hostilités avec la Chine? On peut-tu se le permettre? On peut-tu se permettre de rester neutre? Comment tu vois ça?
Je pense pas qu'on peut se permettre, de rester neutre. Le Canada, on a eu des relations tendues aussi avec la Chine dans les dernières années, avec le dossier de Huawei. La Chine a emprisonné les deux Michael là, qui pendant des années. On a vraiment une relation compliquée, nous aussi, avec la Chine. Et on est vu sur la scène internationale un peu dans les dernières années. On s'est fait pointer du doigt comme étant assez timide, assez mou. Donc, j'ai l'impression que Mélanie Joly et que le gouvernement Trudeau pourraient saisir l'opportunité de vouloir montrer les gros bras aux côtés du géant américain, parce que là, on n'est plus tout seul. Hein. Dans le cas de Huawei, on était Canada contre la Chine, mais là, il y a quand même les États-Unis qui montent les dents. Donc, ça serait pour moi une occasion là pour le Canada de se positionner peut-être un peu avec un peu plus de fermeté que juste appeler au calme là comme ce qui a été fait dans les derniers jours. Mais bon, ça c'est de la communication. Mais sur le plan de la communication aussi, tu sais, je pense que Nancy Pelosi aurait pu se questionner à savoir qu'est-ce que ça enverrait comme message, d'autant affaiblir Joe Biden, parce que tout le monde sait que Joe Biden lui a dit n'y va pas. Elle a défié la position de son président. Elle s'y est rendue, elle a attisé la colère de la Chine, puis là, elle quitte en laissant derrière une situation hautement compliquée et tendue. Je pense pas que c'est mission accomplie là, du côté de Nancy Pelosi. Ça se demandait qu'est-ce qui était ses objectifs réels, au-delà d'appuyer la démocratie à Taïwan. Pour moi, c'est pas tout à fait clair sur le plan stratégique. C'était quoi ses objectifs?
Là, c'est ça, il va falloir arrêter avec les arguments d'appuyer la démocratie partout dans le monde. Là, il y a bien d'autres endroits où il y a des pays démocratiques qui sont attaqués, qui sont menacés, puis les États-Unis ne prennent pas le premier avion pour aller les défendre non plus, là.
Ben non, c'est ça. Puis la numéro 3 en importance des États-Unis ne défie pas le numéro 1 pour n'importe quelle situation. Bon, c'est une situation qui est compliquée, j'en conviens, puis c'est une manière un peu de dire à la Chine, si vous avez pas plein contrôle sur la planète, les Air Trump qu'on vous a laissé faire ce que vous voulez sont derrière nous, mais quand même ça reste de la provocation. Pour moi, c'est un acte assez délibéré de la part de Nancy Pelosi. Je m'explique encore mal, peut-être qu'on va comprendre mieux dans les prochaines semaines, mais à ce stade-ci, je m'explique plutôt mal comment elle a joué ses cartes, qu'elle est débarquée, qu'elle a passé 48 heures, qu'elle est partie et qu'elle laisse derrière elle carrément un désert de guerre carrément derrière elle. Aux alentours de Taïwan.
Et ça pourrait avoir un impact sur un renforcement des relations entre la Russie et la Chine dans le cadre du conflit ukrainien, où la Chine pourrait sortir de sa supposée réserve, là, disons que ce ne sont pas trop prononcés en appuyant la Russie. Or là, maintenant, il pourrait voir dans ça un réalignement des forces des alliés russes.
Tout à fait. Ils n'étaient pas provoqués jusqu'à présent, entre guillemets. Ils n'étaient pas provoqués jusqu'à présent. Ont laissé le conflit entre l'Ukraine et la Russie se passer sous leur nez, entretenir quand même une certaine réserve, comme tu disais. On pourrait voir un scénario où la Chine provoquée décide de dire, ben moi vous êtes venu sur mon territoire, je vais aller sur le vôtre, puis je vais aller appuyer mon ami, ce serait peut-être fort là, mais disons mon collègue russe qui est dans une situation compliquée là. Ben oui, absolument.
Ça n'augure rien de bon pour les tensions géostratégiques à travers le monde et nous oblige, nous, le Canada, qui ne sommes qu'un petit joueur, que ce soit diplomatique, économique ou militaire, à devoir prendre des positions que nous n'avons pas avantage à prendre.
Non, puis même si je pense qu'il faut être clair et être ferme dans nos intentions, on n'a quand même pas le choix de d'inviter nos décideurs à la prudence, parce que si on commence à escalader trop vite la pression, à un moment donné, on va se retrouver avec le doigt dans l'engrenage, puis je pense qu'il y a personne qui a envie là de retomber dans une situation de guerre, même qu'elle soit locale ou qu'elle soit mondiale. On peut l'éviter. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est la chose à faire.
On est d'accord là-dessus.
Oui.
Voilà. Y a une autre histoire qui est sortie dans les dernières heures, là, hier soir. C'est un homme qui était coupable de violence conjugale. Là, quand on parle de violence, de coupable de violence conjugale, on parle d'un homme de Gatineau. Il aurait battu, étranglé et menacé son ex-conjointe. mais il s'en sort sans casier judiciaire parce que le juge ne voulait pas nuire à sa carrière et ne voulait pas l'empêcher de pouvoir voyager.
Exact. Une autre décision judiciaire qui nous laisse un goût amer en bouche. Joshua Chou, donc un homme de 42 ans de Gatineau qui a été reconnu coupable par un juge d'avoir battu, étranglé, menacé sa femme. Il s'en sort sans casier judiciaire. Les motifs du juge sont plutôt, disons, moi, ils me laissent vraiment un goût amer, là. Donc, ne pas nuire à la carrière et ne pas l'empêcher de voyager parce que ça donne que M. Chou, il a une sœur aux États-Unis. Et le juge dit qu'il a l'impression que l'homme regrettait ses gestes. C'est quand même, ça commence à faire beaucoup, Yasmine, là. Ça commence à faire beaucoup. On est dans une situation où il y a quelques semaines, il y avait Simon Hull, qui lui aussi, pour des motifs, disons,
nébuleux,
limites, là, disons, là, tu sais, on l'a absous également. Ce monsieur-là, bon, il est pas absous, mais il y a pas de casier judiciaire. Alors que quand même, là, on se rappelle que c'est sa fille de 13 ans à un certain moment qui a dû intervenir parce qu'elle pensait que sa mère était en train de mourir. C'est assez hallucinant, puis je pense que ça provoque. Qu'est-ce que ça envoie comme message à la population?
Ben, en fait, c'est la question qu'on se pose maintenant, c'est quand est-ce que la carrière d'un agresseur devient moins importante? Exact. Que la victime, son bien-être et le respect et le fait que l'on croit en la justice, parce que
c'est deux éléments, tout à fait. C'est le premier élément, d'une part, cette femme-là et ses enfants-là sont traumatisés pour la vie d'avoir vu et subi de la violence à un haut niveau dans leur quotidien, à tous les jours. Et pour des motifs du type « on veut pas qu'il perde sa job », le juge, disons, est clément à l'endroit de ce monsieur-là. Parallèlement à ça, qu'est-ce que ça envoie comme message à la population en général par rapport à la confiance dans le système de justice? Ça vient définitivement, je pense, miner la confiance des gens dans la justice et ça vient renforcer le sentiment de ces femmes-là qui ont subi ou qui subissent encore des actes de violence conjugale ou qui subissent des formes de violence, de ne pas se tourner vers le système de justice parce que le système de justice leur permet pas d'obtenir réparation. Pour moi, ça devient inquiétant, là. En fait, ça l'est déjà, mais toutes ces décisions-là qui s'accumulent, qui sont des couches de plus, sont des gestes qui pour moi créent de la rupture entre la population, la confiance de la population et notre système de justice. Je trouve ça fascinant qu'en 2022, le préjudice subi par la femme, donc qui a été violentée, qui a pensé mourir, qui va être impactée pour le restant de sa vie, soit pas pris en compte au même titre que monsieur qui va perdre sa job. Pour moi, c'est absolument pas acceptable en 2022. Dans une démocratie, dans un état de droit comme au Québec, comme au Canada, pour moi, c'est absolument inconcevable.
On va suivre les répercussions de cette nouvelle et on va probablement s'en reparler. Stéphanie Touga, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparle demain.
Merci, Yasmine.